Vous avez le droit à l'échec, vous avez le droit au rebond. C'est pas parce que vous avez déposé le bilan que pour autant vous êtes quelqu'un qui doit être banni de la société parce que vous avez finalement, au sens légal du terme, volé personne. Steve Jobs disait « Si je n'avais pas déposé le bilan, j'aurais jamais créé Apple ».
Le meilleur moyen de prévoir le futur, c'est de le créer. Cette citation résume assez bien le projet des Argonautes, celui de soutenir les entrepreneurs qui donnent du sens à la marche du monde. Bienvenue sur le micro des Argonautes, une série d'escales avec des hommes et des femmes qui nous partagent leur vision.
Bonjour, je me présente Eric Fellman, président du tribunal de commerce de Lille Métropole, juridiction commerciale de 65 juges, la sixième la plus importante de France, qui s'occupe du traitement et de l'accompagnement des entreprises en difficulté. Nous sommes là pour protéger les entreprises, protéger le tissu socio-économique et social, et veiller à ce qu'on puisse assurer la pérennité à la fois des emplois et à la fois des activités économiques de ce bassin d'emploi. Nous couvrons au niveau compétences géographiques le bassin économique de la Mel, qui est le troisième de France avec 1 200 000 habitants, troisième après évidemment l'Île-de-France et après la région PACA.
Chapitre 1, le tribunal de commerce, le médecin de l'entreprise.
Alors, donc, en tant que président du tribunal de commerce de Lille Métropole, tribunal que j'assimile souvent à un centre hospitalier judiciaire, c'est-à-dire que nous hébergeons les entreprises qui souffrent des différents bobos de la vie de tout être vivant. Une entreprise étant un être vivant, c'est une personne morale qui naît, qui vit, qui meurt. Donc, j'ai tendance plutôt à avoir un prisme relativement déformé parce que je ne vois a priori, je ne rencontre que des dirigeants qui souffrent de difficultés. Mais au fond, quel est l'entrepreneur qui, de nos jours, ne connaît pas de difficultés ? Soit il les résout par lui-même et tout va bien, soit il a besoin peut-être de l'aide du code de commerce avec les procédures de prévention dont on parlera peut-être après. Et là, de ce côté-là, il trouve, au centre hospitalier que nous sommes, les services de prévention nécessaires. Si par la suite, les interventions doivent être plus poussées, plus approfondies, nous avons tous les services hospitaliers nécessaires et suffisants pour traiter le patient, sachant que malheureusement, nous avons aussi un service médecine légale, c'est-à-dire un service liquidation judiciaire qui constate malheureusement la mort de l'entreprise.
Chapitre 2, bilan de santé des entreprises de la métropole en 2023.
Alors, dans le bassin de métropole de Lille Métropole, on peut constater que le rattrapage par rapport aux 3 années de parenthèse consécutives au quoi qu'il en coûte, où beaucoup d'entreprises ont été protégées par les aides et les subventions du gouvernement et des institutions régionales, le rattrapage s'effectue et de l'ordre où nous avions des dépôts de bilan au niveau national d'à peu près 55 à 58 000 dépôts de bilan par an. On était descendu à 28 000 en 2020 et on repasse progressivement ici en 2023 aux alentours de 53 000, 55 000, c'est-à-dire qu'on rattrapera pratiquement ce qui se passait en 2019. Au niveau de Lille Métropole, c'est exactement la même chose. Nous avions l'habitude, en temps normal, d'enregistrer à peu près 1200 ouvertures de procédures collectives par an, c'est-à-dire à peu près 100 par mois. Nous sommes actuellement à 1070 entreprises en redressement ou liquidation judiciaire, ce qui correspond pratiquement à une année. Avec le mois de décembre, nous atteindrons pratiquement l'équivalent de l'année 2019. Alors, c'est vrai que les chiffres sont un petit peu plus sombres qu'en 2019, ils sont même en progression. La perspective économique n'est plus la même que pendant la période post-Covid. Nous assistons avec l'augmentation brutale des taux d'intérêt qui ont été pratiqués par les banques centrales, et notamment la Banque Centrale Européenne, un renchérissement important du crédit. Il faut reconnaître que les entreprises, que ce soit du secteur de la MEL, que ce soit d'ailleurs au niveau national, même européen, ont été confrontées à des difficultés de toutes sortes, notamment issues de la guerre en Ukraine. Ensuite, avec l'augmentation forte des coûts de l'énergie, consécutivement à cette même crise en Ukraine, avec aussi une augmentation du fret maritime, avec les problématiques consécutives aussi au renchérissement des matières premières, Tout cela a pesé lourdement sur les bilans et aussi au fait que les PGE sont à rembourser. Vous rajoutez à cela un phénomène très important qui est qu'on constate depuis le mois de septembre une baisse assez accentuée de la consommation du particulier, lequel est un peu, entre guillemets, matricé tous les matins par les médias, traumatisé par l'idée que l'inflation, on ne va jamais en sortir. Par conséquent, le consommateur fait attention à ses dépenses, il privilégie certains postes au détriment d'autres, et on assiste malheureusement à des entreprises qui sont victimes de cette baisse brutale de consommation, conjuguée au fait que certains établissements de crédit perdent confiance et sont inquiets de voir des trésoreries qui sont tendues, avec aussi, dans certains cas, des augmentations de délais de paiement. Vous avez aussi le secteur du bâtiment, qui est terriblement inquiétant, si je puis dire, compte tenu du fait que les promoteurs immobiliers nous signalent des baisses très importantes dans le neuf, consécutivement encore à l'augmentation du taux du crédit. Les primo-accédants ont beaucoup de difficultés pour se placer sur le marché et acquérir du logement neuf, même social, malgré toutes les aides. Et vous avez en même temps des secteurs qui sont malheureusement concernés par la baisse de consommation, qui sont notamment la restauration, qui est un des secteurs les plus touchés par la crise, avec les problèmes de recrutement à l'avenant. Vous avez aussi le secteur du retail prêt-à-porter, avec les évolutions absolument supersoniques du comportement du consommateur, des importations asiatiques massives, avec des ventes qui se font par Internet et avec des prix extrêmement agressifs. Vous avez également les start-up qui ont beaucoup de difficultés et pour lesquelles les soutiens financiers commencent à manquer. La confiance diminue dans ce registre parce qu'il y a des problèmes de tension de trésorerie. Et je termine enfin par les entreprises qui, en 2023, ont malheureusement été frappées par l'augmentation considérable de leurs charges du fait de la hausse des coûts de l'énergie et des contrats d'énergie dont ils étaient les titulaires.
Chapitre 3. Savoir se réveiller à temps.
Les entreprises sont incitées de plus en plus à se réveiller à temps. On n'a de cesse de répéter la même phrase « anticiper avant qu'il ne soit trop tard ». Il faut sensibiliser le chef d'entreprise au fait qu'il existe des dispositifs pour justement éviter le dépôt de bilan. Je rappelle deux chiffres qui sont extrêmement importants, 70 et 30. 70% des entreprises en difficulté qui font l'objet d'une ouverture de procédure collective, c'est-à-dire d'un dépôt de bilan, meurent hélas par liquidation judiciaire dans les 5 ans. Ça veut dire que seuls 30% peuvent en sortir, soit par 15% d'entre elles par une cession à la barre du tribunal, soit pour 15% d'entre elles par le plan de continuation sur 8 ou 10 ans. En revanche, 70% des procédures de prévention sortent par le haut. Et donc, seuls 30% n'en sortent pas, ils sont obligés de partir en procédure collective. Ça veut dire que, pour vous donner une idée ici, le nombre d'entreprises depuis le début de cette année qui ont déposé le bilan, nous avons à peu près, grosso modo, un chiffre de procédures qui sont de 1100 procédures collectives. Elles concernent 3400 salariés. Eh bien, 3400 salariés, il y en a 70% d'entre eux qui, malheureusement, dans les 5 ans, risquent de passer par Pôle emploi. Dans le même temps, j'ai ouvert des procédures de prévention, mandat ad hoc et conciliation, qui sont au nombre de 112 et qui concernent, vous êtes bien assis, 21 000 salariés, c'est-à-dire un ratio de 1 à 7. Et dans ces 21 000 salariés, il y en a 70% d'entre eux à peu près qui n'entendront jamais parler de la moindre difficulté de leur entreprise et qui, par conséquent, s'en sortiront sans aucun problème. Parce que la procédure de prévention, d'une part, elle est strictement confidentielle, elle est réservée qu'à certains créanciers sélectionnés, c'est-à-dire les établissements de crédit et les organismes qui contrôlent les charges fiscales et les charges sociales. À partir de là, ces interlocuteurs-là sont attraits à la procédure, ils sont dans le secret, et s'ils peuvent rééchelonner, renégocier l'exigibilité des dettes de l'entreprise parce qu'elle est confrontés à des difficultés provisoires, momentanées, conjoncturelles, eh bien ces entreprises-là repartiront du bon pied. Si hélas les difficultés, au lieu d'être conjoncturelles, sont structurelles, c'est-à-dire nécessitent un traitement de plus long terme, alors il faudra passer à la procédure collective ou à la cession de l'entreprise.
Chapitre 4. comment soigner l'entreprise malade.
Alors, le tribunal de commerce, par les outils qu'il dispose dans la caisse à outils du législateur, c'est-à-dire la prévention, la procédure amiable, peut effectivement, à partir du moment où l'entreprise n'est pas en état de cessation des paiements de plus de 45 jours, c'est le texte de loi, peut contacter un juge de la cellule prévention du tribunal ou peut demander un rendez-vous au président du tribunal, venir accompagner avec son expert comptable dans la mesure du possible, muni de son dernier bilan, compte d'exploitation et bilan, muni de sa position fiscale et sociale, et venir exposer ses difficultés. Et si l'entreprise n'est pas en état déjà de mort clinique ou de difficultés vraiment trop avancées, eh bien dans ce cadre-là, on peut sauver l'entreprise en 70% des cas en nommant un administrateur judiciaire sur demande du dirigeant de l'entreprise, lequel administrateur judiciaire ne va pas du tout diriger l'entreprise, il ne va pas du tout s'interférer dans la gestion du chef d'entreprise, il va simplement, avec l'entrepreneur, aller voir les créanciers attraits à cette procédure pour discuter des difficultés de l'entreprise, proposer un plan de redémarrage et de rebond avec une bonne analyse bien transparente des difficultés, démontrer qu'il les a comprises, ces difficultés, et qu'il va repartir sur de bons pieds, quitte à apporter un peu plus de cash personnellement, quitte à peut-être prendre des mesures de restructuration qui sont des signaux forts pour les interlocuteurs financiers et qui permettront de redonner la confiance.
Chapitre 5. Entreprendre à nouveau après un dépôt de bilan.
Alors, quand une procédure collective, malheureusement, se termine par une liquidation judiciaire, eh bien, l'entrepreneur, pour autant, n'est pas condamné définitivement, si je puis dire, à une mort en tant que statut de chef d'entreprise. Si, et c'est le cas de 92% d'entre eux, s'il ne fait pas l'objet dans les 3 ans qui suivent le dépôt de bilan d'une procédure d'assignation en sanction, c'est-à-dire que son dépôt de bilan est dû malheureusement à un concours de circonstances malheureuses, à l'infortune, à la malchance, au fait qu'il a perdu par exemple un gros client qui a déposé le bilan, ou qu'il a perdu un gros fournisseur qui a préféré s'adresser à quelqu'un d'autre, ou lequel gros fournisseur a lui-même des problèmes financiers et rompt et sa chaîne d'approvisionnement, eh bien dans ce cas-là, nous sommes en association, nous sommes en relation avec des associations comme 60 000 rebonds et le second souffle qui permettent au chef d'entreprise de lui dire « Vous avez le droit à l'échec, vous avez le droit au rebond. Ce n'est pas parce que vous avez déposé le bilan que pour autant vous êtes quelqu'un qui doit être banni de la société parce que vous avez finalement, au sens légal du terme, volé personne. Par conséquent, on n'en veut pas au pêcheur, il a le droit de repartir et de rebondir. » Steve Jobs disait « Si je n'avais pas déposé le bilan, j'aurais jamais créé Apple. » Alors, la loi Pacte, justement, a prévu que le dirigeant qui, au bout de 3 ans, ne fait pas l'objet de sanctions, peut lui-même prétendre à être élu juge au tribunal de commerce s'il a créé une nouvelle société, faisant ainsi profiter ses collègues de son expérience de recréation d'une entreprise et aussi démontrer à ses collègues qui l'ont élu, parce que nous sommes tous des élus, démontrer à ses collègues qui sont dans la difficulté que on n'est pas foutu pour autant et qu'on peut repartir. Et donc, ce sont des témoins très positifs pour réentreprendre l'aventure entrepreneuriale.
Chapitre 6. Comment effacer les dettes de l'entreprise ?
Alors, les conditions pour effacer les dettes de l'entreprise, c'est soit vous êtes en prévention, vous avez des dettes que pour l'instant vous honorez, emprunt bancaire, PGE par exemple, leasing et compagnie. Si au jour où vous demandez le bénéfice de la prévention, vous n'êtes pas en retard, vous demandez à faire en sorte que pour l'avenir, ce que vous avez à rembourser bénéficie d'un sursis à paiement qui peut aller jusqu'à 24 mois, jusqu'à 30 mois, voire 36 mois. Et dans ce cas-là, on moratorie pendant cette période-là les dettes exigibles pour permettre à l'entreprise de trouver de la trésorerie et de réhonorer par la suite son contrat bancaire. Si vous êtes en procédure collective, si vous bénéficiez d'un plan de continuation, eh bien ce plan de continuation par remboursement du passif se fera dans le cadre des dettes qui ont été gelées le jour de l'ouverture de la procédure collective. Elles sont remboursées par dividende annuel sur une période maximum de 10 ans. Si vous êtes en liquidation judiciaire, malheureusement là, il n'y a pas de remboursement des dettes et les créanciers, malheureusement, ne retrouveront pas leurs créances.
Chapitre 7. Affronter la solitude du dirigeant.
Le problème de la solitude du dirigeant est un phénomène permanent, un phénomène constant. Un dirigeant qui éprouve des difficultés est souvent taisant. Il est souvent mutique, il se replie sur lui-même, il se recroqueville. Souvent, il fait du déni par rapport à la réalité de ses difficultés, notamment dans l'analyse de son business model. Il est seul, il n'ose pas en parler. Et à ce titre, il reste, je dirais, cloisonné dans son bureau. Et c'est justement ce qu'il ne faut pas faire. Ce qu'il faut faire, c'est être plutôt un homme qui est attaché, ou une femme, à des réseaux, à en parler à ses collègues, à en parler à ses amis, et à essayer justement de prendre langue avec les uns et les autres pour justement sortir de cette solitude et parvenir justement à utiliser les bons moyens légaux qui sont à sa disposition. Alors, il y a à côté de ça le chef d'entreprise qui, lui, est encore plus isolé et est littéralement essoré par les difficultés qu'il rencontre. Ça devient un obstacle à la fois moral et, je dirais, un chef d'entreprise qui commence à déprimer et malheureusement un chef d'entreprise qui ne dispose plus du ressort nécessaire pour rebondir, dont on parlait tout à l'heure. Il y a le syndrome, malheureusement, des 5D. C'est le déni de réalité, c'est le dépôt de bilan. C'est souvent assorti du divorce, de la dépression et malheureusement du décès. Vous savez qu'il y a un chef d'entreprise d'exploitation agricole qui se suicide par jour. Il y a un chef de TPE, un chef d'entreprise de TPE qui se suicide toutes les 48 heures. Donc c'est dire l'intensité et la gravité du problème. Alors nous avons créé depuis 2018 une structure qui s'appelle APESA, aide psychologique pour l'entrepreneur en souffrance aiguë, où en l'espace d'une mise en route d'un système d'alerte et de prise en charge psychologique du dirigeant en une heure de temps en moyenne sur tout le territoire français, par des fiches d'alerte, on arrive à faire en sorte que le chef d'entreprise ne se suicide pas dans 99,8% des cas. C'est donc véritablement une structure qui prend en charge les difficultés psychologique du dirigeant, et si après il s'en sort, on l'envoie justement à 60 000 rebonds ou au second souffle pour qu'il reprenne un petit peu espoir et confiance en lui.
Chapitre 8. Conclusion.
Oh, le message aux entrepreneurs qui nous écoutent, c'est premièrement, rien n'est jamais acquis. Remettez-vous en cause en permanence. Tous les jours, vous devez vérifier deux points. Est-ce que votre trésorerie est aisé, ou est-ce que vous avez bien anticipé les hauts et les bas de votre trésorerie à venir? Deuxièmement, est-ce que votre business model, c'est-à-dire l'adéquation de votre offre produit et service, est toujours bien en phase avec l'attente du marché, aujourd'hui, mais aussi demain et après-demain? Et troisièmement, surtout, anticipez avant qu'il ne soit trop tard. N'ayez pas peur du tribunal, le mot tribunal fait peur. Nous sommes la maison de l'entreprise, nous sommes là pour accueillir les dirigeants qui rencontrent des petites difficultés ou des grosses, et on est là pour, en stricte confidentialité, les traiter avec eux.
Merci de nous avoir accompagnés sur cette escale. Le micro des Argonautes, un format proposé par le MEDEF de Lille et la Caisse d'épargne Hauts-de-France. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme préférée.